c'est pareil pour le décollage ici, donc d'un porte-hélicoptère de nuit. Donc en fait, sans horizon visible par exemple, on n'a aucune référence extérieure. Donc du coup, on fait notre décollage vraiment aux instruments. C'est un moment où dans la machine, personne ne parle. C'est un moment où on est tous super attentifs. Parce que pour revenir sur les crashs, souvent les crashs qui ont lieu en mer, un hélico qui a été mis en œuvre depuis un bateau, c'est au décollage. Décollage parce que sans référence extérieure, un petit peu comme du vol dans les nuages, aux instruments, on peut vite avoir des illusions sensorielles. Et donc du coup, qui nous amène du coup à nous imaginer dans une certaine position alors qu'on ne l'est pas. Et donc du coup, amener l'hélicoptère, sortir l'hélicoptère d'une bonne, un bon domaine de vol.
Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Dans ce nouvel épisode, notre mini-série exclusive sur la mission Jeanne d'Arc 2022, nous nous envolerons avec l'aspirant Florian, pilote d'hélicoptère au sein de la flottille 35F de la Marine Nationale. Il nous parlera notamment des nombreux types de missions qu'il est amené à réaliser à bord de son Dauphin. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour lieutenant, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bien, bonjour. Je m'appelle Florian, donc j'ai 26 ans. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis dans la marine. Je suis EOPAN de spécialité, c'est-à-dire que je suis officier sous contrat. Donc c'est des premiers contrats d'une dizaine d'années qui sont signés à l'issue de notre succès, de notre brevet hélicoptère. Je suis rentré dans la marine à 22 ans. J'ai commencé, j'ai un baccalauréat général. Pour savoir que dans ma spécialité, donc les officiers sous contrat, seulement un bac général suffit pour pouvoir rentrer et postuler pour les différentes sélections. Donc c'est le minimum en fait. Ça permet d'ouvrir à un gros panel de personnes aujourd'hui et de jeunes. Et à l'issue de mon bac, je suis parti un an à l'étranger pour progresser en anglais, et donc faire un séjour linguistique et puis prendre un petit peu également en maturité. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à bien me renseigner sur le métier de pilote militaire, notamment également au sein de l'armée de l'air, au sein de la LAT et puis la marine. J'ai essayé de jouer sur tous les tableaux pour être sûr d'avoir... la finalité, c'est que je devienne vraiment pilote militaire. Et après, l'arme, c'était une seconde, ça passait en second plan. Voilà. Et tout ça m'a amené à faire différents métiers, le temps de préparer les concours, parce qu'il y a quand même un délai entre le moment où on dépose le dossier, donc au CIRFA, où on est envoyé en sélection, donc présélection pour la marine, puis les sélections en vol, etc., puis l'admission. Vraiment dans le cursus. Donc tout ça m'a amené à me faire une expérience professionnelle à côté dans le civil et puis aussi travailler sur un plan B dans le cas où j'aurais pas été retenu pour en tant que pilote. Je suis rentré à 22 ans, janvier 2018, je suis de la promotion Alpha 18 à l'EIP 50S, donc l'école d'initiation au pilotage. C'est bien par là que passent tous les présélectionnés et ensuite les sélectionner pour les promotions d'élèves pilotes. Donc ça se situe sur la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic. C'est une petite partie qui est vraiment détachée, vraiment indépendante, où passent tous les futurs pilotes de la Marine nationale. Que ce soit pilote d'hélicoptère, pilote d'avion, chasse ou de transport patrouille maritime.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi, pourquoi vous êtes-vous dirigé vers les hélicoptères et pas vers les avions de chasse par exemple ?
Eh bien, c'est vrai qu'initialement, quand je suis rentré dans la marine, donc au tout début, la sélection, et d'ailleurs c'était le cas un petit peu pour tout le monde, il y avait beaucoup plus de FANA, comme on appelle ça, chasse, parce que c'est un petit peu le vecteur. C'est vrai que dans la marine, on est maintenant passé au tour Rafale, donc c'est comme une machine qui fait assez rêver. Mais ensuite, en fonction des rencontres que j'ai fait, parce que donc là-bas, les instructeurs sont des pilotes d'hélico et des pilotes de chasse, qui sont par exemple en année d'aération, donc pendant un an ou deux, on les prend des forces, on les met en école, comme ça, en tant qu'instructeur. Pour sélectionner les élèves, et les futurs pilotes, et ensuite ils sont renvoyés dans les forces et continuent ce pourquoi pourquoi ils ont été formés. Et donc du coup, en fait, tout ça, donc, ça nous amène à avoir des échanges avec notamment donc, les pilotes de chasse, pilotes d'hélico. Et c'est vrai qu'avant d'entrer dans la marine, on base beaucoup nos envies, nos desiderata sur, entre guillemets, sur la forme de ce que représente le métier de pilote de chasse, la machine, pour y revenir. Mais ensuite, c'est vrai que quand on rentre dans le détail, et là, on se rend plus ou moins compte que ça nous correspond ou pas. Et moi, c'était mon cas. Et je me suis beaucoup plus retrouvé dans le métier d'hélicoptériste, que ce soit dans le côté équipage déjà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui donc dans la marine c'est du monopilote, le Rafale, alors que donc dans les hélicos on est au minimum 3 en équipage constitué, voire 4 avec le plongeur. Et ensuite là, je dirais que la pluralité des missions également m'a beaucoup attiré. Le fait de pouvoir faire plusieurs machines différentes aussi dans ma carrière. J'ai déjà fait quelques machines, j'ai fait le C120. Du Dauphin pour mon IFR, du Fennec, et puis là potentiellement on aura du 160, le Guépard, le Caïman, enfin il y a vraiment du potentiel si on veut pouvoir orienter sa carrière de telle ou telle manière. Et ensuite également au niveau des affectations, donc là aujourd'hui moi je suis à la 35F, donc j'ai été muté à terre pendant un an, mais ce qui m'a permis aussi de venir sur le PHA Mistral, de faire quasiment un tour du monde. L'année prochaine, par exemple, j'ai demandé à partir en Outre-mer. On verra si je l'ai, mais en tout cas, même en Outre-mer, on a des détachements en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti. On a également la 34F va armer aussi la Martinique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est ce qui m'a fait que... Ce qui m'a attiré, où là, je me retrouvais bien. Mais après, c'est vraiment propre à chacun. C'est vrai que moi, il y a pas mal de personnes, enfin de jeunes pilotes qui ont changé aussi d'avis, qui sont plutôt partis sur les hélicos alors qu'ils étaient sur la chasse à la base. Mais globalement, tout le monde a eu ce qu'il voulait sur la fin au niveau des desiderata. Voilà.
C'est facile de passer de l'un à l'autre, de devenir pilote de chasse après avoir été pilote d'hélicoptère et vice versa.
Alors c'est pas du tout un cursus normal. Ça se présente que à certains. Moi, j'en ai rencontré un ou deux. Ce sont des échecs chasse, par exemple, qui ont été orientés en pilote de chasse, qui reviennent par exemple des États-Unis et qui retournent des États-Unis. Donc, vous savez, la formation se fait aux États-Unis pour les pilotes de chasse d'aéronautique navale, enfin, une partie du moins. Et bien, par exemple, quand ils font leur transformation, donc à l'Andivisio, ils arrivent sur Rafale, pas assez souvent, mais ça peut arriver que le pilote est. Et à journée, en fonction des profils, et puis si par exemple la personne est assez jeune, tout ça, qu'elle peut être utilisée dans les forces, elle peut être réorientée en filière hélicoptère. Mais ça amène à, je pense que c'est quand même assez difficile pour le pilote entre guillemets, parce qu'il doit repartir sur 3-4 ans de formation quasiment, tout en n'étant toujours pas breveté, et également voilà, ça demande une certaine remise en question. Donc un personnel qui arrive dans les forces employables qui est 4 à 5 ans plus âgé que ce qu'il aurait dû être normalement. Donc c'est également un autre investissement parce que toute la formation qui doit être financée. Donc voilà, c'est vraiment des cas très particuliers. Et dans le sens hélicoptère vers la chasse, ça se fait quasiment jamais. Okay. Parce qu'il n'y a pas de raison que le pilote qui soit échec en hélicoptère soit réorienté en chasse.
Il y a beaucoup plus de missions, de différentes missions pour un pilote d'hélico qu'un pilote de chasse.
Je ne peux pas vraiment vous dire parce que je connais les missions des hélicoptéristes, des pilotes de chasse un petit peu, mais c'est vraiment très spécifique quand même et assez cloisonné, mine de rien. Surtout que je n'ai pas encore fait Charles de Gaulle, par exemple, donc je n'ai pas été vraiment encore en interaction vraiment au niveau professionnel avec des pilotes de chasse sur un même porteur, sur un même bâtiment. Donc je ne vais pas m'avancer sur le fait que nous, on fait plus de choses différentes que eux. Quoi qu'il en soit, pour moi, oui, il y avait une certaine diversité dans la localisation, dans le nombre de machines qui me permettait de plus m'y retrouver.
D'accord. Aujourd'hui, vous volez donc sur un dauphin. C'est quoi les caractéristiques de cet aéronef?
Alors en fait, c'est le Dauphin, donc c'est une machine civile à la base, qui n'a pas du tout été construite pour le marché militaire. Et c'est une machine qui a fait beaucoup d'offshore, c'est-à-dire donc qui a été utilisée par exemple par les plateformes pétrolières pour relier du coup le continent à la plateforme et transporter des passagers. C'est une machine qui vole très bien, qui est silencieuse, qui vibre pas et qui peut emporter en version lisse pour le transport de passagers quasiment une dizaine de personnes, en fonction des types de dauphins qui sont plus ou moins motorisés. Et donc du coup c'était comment dire la machine un petit peu parfaite pour le faire. Il s'avère que c'est une machine qui est vraiment qui a un gros potentiel, et notamment pour nous dans la marine, qui l'utilisons, qui est une bonne machine, un bon rapport au niveau de la capacité d'accueil et du fait qu'elle soit assez compacte. Si, c'est beaucoup plus petit qu'un NH90 par exemple ou qu'un Puma. Et donc du coup pour l'embarquer sur les bateaux, donc la version le Panther, donc la version militarisée du Dauphin, ou bien comme ici, donc avec un Dauphin sur le bateau. Et la marine l'utilise pour faire du treuillage énormément. C'est la spécialité de la flottille 35F, donc c'est le secours en mer. Et donc du coup on s'entraîne régulièrement avec les plongeurs. Et voilà, c'est une bonne machine polyvalente. Qui peut faire du narcops, donc avec la 36F par exemple, donc avec un ou deux tireurs d'élite derrière. On fait du treuillage, on fait du transport de charge. Par exemple, là, entre le PHA Mistral et la FLF Courbet, on a transporté des munitions, etc. On peut faire un petit peu de... Le Panther fait un petit peu de prise de renseignement avec différents moyens qu'il a à bord. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette machine.
D'accord. C'est quoi les compétences requises pour être un bon pilote d'hélicoptère?
Déjà, je dirais donc un certain sens de vie en collectivité, du fait d'être dans un équipage en permanence, qui amène à évoluer toujours avec 3-4 personnes dans la machine, dans un environnement qui peut être un petit peu chargé parfois. Je dirais que c'est beaucoup de remise en question aussi parce que assez souvent en fait on plafonne jamais, par exemple au niveau des qualifs. En fait on est constamment en train de voir vers l'avant et de préparer une nouvelle qualification, et donc du coup de passer de pilote qui a une certaine qualification et qui est plus forcément dans l'instruction, à au lendemain une nouvelle instruction et sur une mission en particulier, puis revenir sur quelque chose de connu dans notre domaine de compétences pour ensuite re-être testé, repasser des nouveaux tests, etc. Et donc du coup c'est vrai que ça demande voilà, de pas se reposer, on va dire, sur ses acquis et d'accepter ça.
Ouais, donc ça demande d'être assez curieux, j'imagine, pour avoir envie d'apprendre de nouvelles choses à chaque fois.
Il vaut mieux, oui.
Ouais.
Il vaut mieux. Après, on va dire qu'on est, enfin, on est tous passionnés par ce qu'on fait, et surtout on a envie d'apprendre. En fait, quand on vole avec nos instructeurs ou nos anciens, on a envie d'apprendre donc ce qu'ils ont à nous transmettre. On a envie de s'améliorer, d'obtenir de nouvelles qualifications pour pouvoir faire plus de choses. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement pilote, enfin commandant de bord et copilote est un petit peu particulier dans la marine, ce qui fait qu'en fait, on switch assez souvent de place, que ce soit à gauche ou à droite. Globalement, donc le pilote qui est à droite, c'est celui qui est aux commandes. Que ce soit un jeune pilote ou un ancien, déjà premièrement, donc le treuil est à droite. Donc en fait c'est le côté où on a le plus de visuel sur ce qu'on va faire. Quand on arrive sur un bateau par exemple, un voilier ou une vedette de la SNSM sur laquelle on doit treuiller, on arrive toujours sur son bâbord pour pouvoir avoir le visuel, et ensuite on engage en se déplaçant vers la droite, et c'est bien celui qui est à droite qui est aux commandes, parce que le plus proche des obstacles aussi. Également quand on aponte ou quand on décolle d'un bateau, c'est toujours celui qui est le plus proche des obstacles. Qui est aux commandes. Voilà. Et celui qui est à gauche, donc que ça soit le commandant de bord ou bien le jeune copilote, c'est enfin le jeune pilote, disons, c'est celui qui va gérer la mission. C'est-à-dire que donc sur le tableau de bord, le radar est à gauche. Et donc c'est celui, donc c'est ce qui fait que la personne est à gauche aussi, et c'est celui qui va gérer la mission, c'est-à-dire celui qui va faire les contacts radio avec le contrôle, avec le bateau, c'est celui qui va donc essayer de sortir les meilleures images possibles, par exemple dans le cas d'une surveillance maritime au niveau des bateaux, voilà, c'est celui qui va gérer la trajectoire aussi et qui va guider celui qui est aux commandes. Donc voilà un peu pour la répartition. Donc pour les missions faciles, par exemple l'appontage, décollage, etc., ou bien des navigations standards pour relier d'un point A à un point B, un convoyage par exemple, ou du transport de passagers, c'est souvent donc on essaye autant que faire se peut de mettre le jeune pilote à droite, donc aux commandes, pour qu'il se fasse la main. Mais dès qu'on rentre sur des missions complexes, par exemple du treuillage de nuit, où là c'est une qualification qui s'acquiert qu'au bout de quelques années après le brevet. Donc là c'est souvent l'ancien, donc qui est commandant de bord aussi, et donc qui lui va être à droite. Et nous qui allons gérer toute la partie mission comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Et ça c'est une plus-value de pas être toujours du même côté, et du coup pour les jeunes pilotes de passer côté gauche et de gérer la mission. Et d'avoir en soi un rôle un petit peu de commandant de bord aussi, eh ben c'est une grosse plus-value, par exemple pour nous qui ne sommes pas encore commandant de bord et qui du coup commençons déjà à préparer, on va dire, le terrain pour les qualifications de commandant de bord.
Ah, ça va être assez intéressant en termes de prise de responsabilité, de
Oui, tout à
construction
fait.
même personnelle, non?
Complètement. Surtout que ça nous amène du coup à donner des directives à un pilote qui est plus ancien à côté de nous, qui a plus de connaissances, et qui est sur le papier et sur la feuille des vols et le cahier des vols le commandant de bord. Parce que donc à bord il y a toujours un responsable. C'est comme dans un avion de ligne, c'est comme sur un bateau, par exemple avec le pacha, etc. Voilà, il faut qu'au yeux de la au niveau législatif, au niveau de la loi, il faut qu'il y ait quand même un personnel désigné qui est responsable de la mission, ouais. Et de la sécurité, surtout du personnel et de l'aéronef.
Vous disiez tout à l'heure que c'était un objectif pour vous important de devenir pilote, peu importe au final l'armée en question. Qu'est-ce que vous avez découvert dans la marine qui vous a donné envie de continuer dans cette voie et est-ce que vous seriez prêt peut-être à passer dans une autre armée, maintenant que vous avez découvert la marine?
Pour être honnête, en fait, j'ai d'abord passé donc les sélections dans l'armée de l'air, puis dans la latte, et sur ces deux sélections, en fait, j'ai été échec. Je connaissais très mal, en fait, la composante aéro, donc l'aéronautique navale dans la marine. Pour moi, la marine, c'était les bateaux. L'armée de l'air, c'était vraiment donc du coup les spécialistes donc la composante aérienne. Et l'armée de terre, c'était un petit peu plus voilà, tout ce qui est infanterie, etc. Voilà, ça c'était ma vision globale à 19 ans, 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce métier-là. Et ensuite, du fait d'avoir été échec à l'armée de l'air, je me suis intéressé à l'armée de terre. Donc il y avait la latte. Donc la latte qui, elle, a vraiment une composante qui est vraiment amenée à suivre ses hommes sur le terrain, qui est assez déployée vraiment en opération extérieure. Ensuite, quand j'ai été échec à latte, en m'intéressant à la marine, là j'ai découvert tout ce que faisait la marine au niveau de l'aéro. Et pour être honnête, aujourd'hui, la vie est bien faite parce que c'est dans la marine que je me sens plus à ma place. Surtout que dans le civil, entre mes 19 et mes 22 ans, donc ces 3 ans où je préparais les concours pour entrer de pilote militaire, j'étais marin à côté et je suis originaire du sud-est de la France et je travaillais dans le yachtisme. Et puis depuis tout petit, en fait, j'ai grandi au bord de la mer, tout ça. Donc au final, en fait, les choses sont bien faites. Et aujourd'hui, l'embarquement, je me rends compte que oui, je suis à ma place.
C'est intéressant. Le métier de pilote, c'est peut-être un des métiers qui fait le plus rêver les futurs militaires. Comment vous, c'est quelque chose qui était
qui remonte à votre enfance, cette envie de faire ce métier, ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard?
Alors, ça remonte à mon enfance, oui. Si ce n'est que pendant une certaine période, en fait, j'ai abandonné cette idée-là, du fait qu'il y a beaucoup de préjugés, d'idées préconçues sur le métier de pilote, que ce soit pilote de ligne, que ce soit pilote militaire, dans les capacités nécessaires, en fait. Je pense que si vous demandez, par exemple, un professeur des écoles ou bien un instituteur, les qualités qu'il faut pour être pilote, eh bien, ils vont vous dire qu'il faut être très bon en maths, en physique, etc., faire partie des meilleurs de la classe. Et je pense que ça a pu au final, comment dire, ne
Découragé.
décourager tout à fait pas mal de jeunes, pas mal d'élèves. Et moi, ça a été mon cas. Donc c'est un souvenir qui est assez flou parce que ça remonte quand même à pas mal d'années. C'était autour du collège où je me rappelle ne pas me sentir capable de faire ce métier-là du fait que j'étais pas très bon en maths et que les sciences n'étaient pas non plus ce qui me faisait rêver. Et donc du coup j'ai abandonné cette idée jusqu'à mon retour de l'étranger justement, donc à 19 ans, après avoir passé 1 an à l'étranger. Et en me demandant ce que vraiment j'allais faire au final en rentrant en France. Et là, je suis tombé sur une de ces pubs de la marine qui disait qu'avec un bac, devenez pilote. Et du coup, ben, j'ai commencé à regarder vraiment le métier de pilote militaire. Et là, j'ai re-eu confiance en moi, entre guillemets, à ce niveau-là et sur mes capacités. Et il s'est avéré que, et c'est l'un des premiers conseils que je donne, enfin vraiment, surtout aux jeunes quand on les reçoit sur les bases aéronavales, pour les journées portes ouvertes, etc. Pour les collégiens, les lycéens, j'essayais vraiment de démystifier ce côté super, enfin que pour être un pilote, il faut être un super élève déjà à la base, parce que c'est pas forcément le cas. Certes, il faut avoir certaines capacités en termes de pilotage, en termes de calcul mental, par contre, tout ça en termes de connaissances aéronautiques, une certaine sensibilité à cet environnement-là. Mais par contre, voilà, au niveau vraiment de la pure théorie des mathématiques et de la physique, on en est loin.
Enfin, le métier de pilote, ça a été aussi popularisé par les films, par la littérature sur ça. Quel regard vous portez sur ça quand vous regardez là, ça concerne plus la chasse, mais des films comme Top Gun, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui vous avez inspiré quand vous étiez enfant, et c'est des choses avec quel regard vous regardez ça aujourd'hui?
Je pense que ça nous inspire tous, même que ce soit des films de science-fiction, même si on est assez loin de la réalité, qu'on peut le voir par exemple avec le domaine des sous-marins, avec Le Chant du Loup, qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Omar Sy. Même si on est dans un film qui est quand même romancé, ben, au final, ça nous permet quand même de découvrir un certain milieu et de se le représenter. Et que ce soit par exemple avec Top Gun ou bien Le Chevalier du Ciel pour la partie française. Oui, c'est des films qui, je pense, donnent à ceux qui sont sensibles une certaine. Qui, je pense, s'imaginent par exemple à la place des pilotes, s'imaginent dans leur siège éjectable, etc., en train de passer le mur du son, tout ça, en train de faire des choses exceptionnelles. Et je pense que même si ça ne nous amène pas forcément à être pilote de chasse un jour, ben en fait ça peut quand même créer des vocations et faire découvrir que ce soit le monde militaire ou que ce soit par exemple certains pour devenir pilote de ligne. Enfin, en tout cas, ça permet de vraiment d'ouvrir, je pense, et puis nous faire rêver. Et ça c'est quand même important parce que c'est un peu la base de chaque rêve qui au final amène là où amène à du concret et là où on se retrouve quelques années plus tard.
Je note quand même que les campagnes de recrutement de la marine fonctionnent du coup.
Alors elle fonctionne, j'irais moins bien que les autres. Enfin, pour la partie aéro, ce qui m'est arrivé à moi, hein, le fait que la marine, bah, j'avais mauvaise connaissance de l'aéronautique navale, de ce qui s'y faisait, je pense que c'est de moins en moins parce qu'elle essayait vraiment de communiquer, mais c'est vrai qu'encore, je pense que dans la tête des gens. Et moi, je me rappelle quand je me suis engagé, et quand je disais à mes amis que je peux rentrer dans la marine et que j'essaye de faire pilote d'hélicoptère, bien, en fait, ils me demandaient, mais attends, il y a des hélicos dans la marine. Enfin, c'est la même réflexion que moi j'avais quelques années plus tôt. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu. Et parce que la marine nationale, enfin, porte bien son nom, c'est la marine, c'est la mer. Et comparé donc à sa grande sœur, l'armée de l'air, qui elle porte aussi bien son nom et où ça coule de source qu'elle y emploie des aéronefs. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment difficile, je pense, pour la marine de lutter, mais c'est aussi pour ça que du coup on fait des représentations, des meetings aériens. Je sais que dans le sud de la France, on fait beaucoup de treuillages avec les SNSM devant certains ports, devant certaines. Sur les meetings aériens, on essaie de faire connaître tout ça. Je sais que de plus en plus, il y a les Rafales Marines de Landivisiau qui, eux, participent aussi à des défilés aériens, à plusieurs machines notamment. Donc l'armée de l'air a le Rafale sur le display, et nous, on a 3-4 Rafales en formation qui font des évolutions. Et voilà, tout ça permet de faire connaître le milieu, mais c'est sûr qu'elle part de base avec un handicap. Et puis parce que sa spécialité à la base, c'est quand même les bâtiments de surface, les sous-marins.
Est-ce qu'il y a des spécificités purement techniques et mécaniques à voler en mer comme ça? Vous disiez que le dauphin, c'est une machine qui est utilisée beaucoup pour le offshore. Est-ce que, je sais pas, par exemple, un chouka ou un puma a les mêmes problématiques ou caractéristiques?
Bien. Je dirais que ça dépend de l'emploi qu'on en fait. C'est vrai que pour la partie usure, entre guillemets, c'est vrai que le sel, donc c'est très corrosif. Et nous, donc les machines, on les rince après chaque vol. Les moteurs aussi, ils ont chaque fin de dernier vol de la journée, donc on rince les moteurs donc avec certains produits, on rince la machine. Et c'est vrai que si vous allez dans le hangar, regardez la machine, elle est nickel, elle est bichonnée par nos techniciens. Mais ça, c'est quand même obligatoire pour son entretien et pour son côté vétuste. Et ensuite, pour revenir sur les caractéristiques de la machine par rapport à d'autres, je dirais que le dauphin a une certaine endurance qui lui permet une grande allonge. Et donc, du coup, en fait, étant donné que l'hélicoptère est un petit peu les yeux du bateau, donc un hélicoptère embarqué, en fait, le bateau qui lui a une portée au final qui va pas plus loin que l'horizon, en termes de radar, en termes de détection visuelle, il est un petit peu dans sa bulle, et l'hélicoptère lui permet vraiment d'agrandir sa connaissance de la situation qui est autour de lui, et donc du coup l'allonge du dauphin, l'allonge que peut avoir le panthère, permet d'éloigner cette bulle-là d'informations à 120-150 nautiques sur l'avant du bateau, ce qui est quand même une certaine plus-value. C'est pour comparer, c'est sûr que par exemple un puma qui est plutôt fait pour faire du transport de troupes, etc., n'a pas cette vocation-là à faire du renseignement en mer, par exemple. Donc c'est vraiment, voilà, la marine a choisi le dauphin, le panthère, à terme le HIL aussi. Tout comme elle a choisi par exemple le NH90 pour faire de la lutte anti-sous-marine. NH90 qui est un pilote automatique 4 axes, c'est-à-dire qui est capable de tenir une position par exemple GPS et un stationnaire au-dessus de l'eau tout seul, qui permet de libérer du coup la capacité du pilote, déjà libérer le pilotage, donc du coup pour se concentrer vraiment sur la mission tactique. Donc c'est vraiment en fonction de chaque mission. Une adaptation avec la machine. Après, on fait un petit peu avec nos moyens et on essaye de s'adapter à ce qu'on nous demande avec les moyens qu'on a. Mais ça, c'est un peu partout pareil.
Au moment où on enregistre cet entretien, on est en pleine mission Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que ça implique pour vous, concrètement, cette mission?
L'éloignement. Mais non, c'est une chance pour nous. Donc, on a été deux copilotes. Donc, moi, j'ai fait la relève d'un autre aspirant juste avant. Je l'ai relevé au Gabon. Donc, lui a fait 3 mois. Moi, j'ai fait 2 mois. Donc, la fin de mission. Et c'est une réelle chance de pouvoir voler dans des régions différentes, de pouvoir interagir avec des marines différentes également. Donc, savoir que le dauphin, donc on a posé sur des frégates égyptiennes, indiennes, brésiliennes, américaines. Voilà, il y a vraiment cet échange-là. Également, Dauphin a fait beaucoup de liaisons. Là, juste avant d'arriver au Portugal, on a fait une liaison aux Açores, par exemple, pour aller chercher une pièce pour la frégate qui nous accompagne. Donc, c'est vraiment à chaque fois que le bateau avance, entre guillemets, et qu'on décolle, on se retrouve dans un environnement différent. Et ensuite, c'est vrai que l'embarquement et au niveau de ce qu'on peut y faire, notamment les vols de nuit, sont complètement différents de ce qu'on peut faire à terre. Savoir qu'en mer, la nuit est souvent très sombre, et donc du coup, c'est une réelle difficulté pour nous. Et ça demande c'est des vols qui sont assez compliqués, vols qu'on ne peut pas forcément pousser aussi loin à terre. Du fait de la pollution lumineuse, de la côte, etc. Donc c'est vraiment une grosse plus-value pour passer les qualifications de nuit à l'appontage. Et c'est vrai que, également, pour aller un petit peu plus loin, en fait, en tant que jeune pilote, donc moi j'ai été breveté il y a un an, j'avais des qualifications à l'appontage à passer, que ce soit 2 jours ou 2 nuits, et donc du coup, ben, cet embarquement m'a permis de les faire, tout comme mon prédécesseur juste avant moi. Et également, ben, c'est vrai qu'on est pilote militaire dans la marine, dans l'aéronautique navale, et ça permet aussi de découvrir la vie embarquée, parce que c'est sûr que c'est pas la même chose que faire du tourisme sur son bateau. Et vraiment, on vient, en fait, donc on est un détachement, on fait pas partie du bord, donc détachement embarqué, hélico, mais on vient vraiment vivre au rythme du bord, manger avec eux, partager dans les carrés, etc., les différents exercices. Et donc du coup, on vient vraiment mêler un petit peu ces composantes différentes, que ce soit la surface, l'aéro, et apprendre autant pour eux que pour nous comment eux fonctionnent, leurs contraintes. Et c'est vrai que sans cette accoutumance, et un petit peu on appelle ça les stages en brin, qui sont les premiers embarquements pour les jeunes militaires, enfin les jeunes marins. Voilà, on vient vraiment cerner comment tout fonctionne sur un bateau. C'est quand même assez complexe, plein de services différents, avec plein de contraintes différentes. Et pour nous, c'est une richesse qui est obligatoire pour un pilote de la Marine nationale de s'accoutumer et de découvrir la vie embarquée, parce que c'est le cœur du métier. Même si on a des détachements à terre, c'est notre vocation, c'est d'être déployé depuis un bâtiment de la marine.
D'accord. Dans les échanges, enfin dans les manœuvres internationales, enfin plutôt bilatérales, que vous avez pu faire lors de ce voyage, cette expédition, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez plus que d'autres? Est-ce qu'il y a peut-être un exercice qui vous a plus marqué qu'un autre?
Bien, je dirais qu'on a eu la chance de voler déjà dans des endroits exceptionnels, que ce soit au Brésil, que ce soit au Gabon, aux Antilles, tout ça. C'est vrai que c'est une chance de voir tout ça de là-haut, quand même. Et ensuite, également, c'est vrai qu'aux Antilles, donc il y a l'exercice Caraïbes 22 qui s'est tenu, et il y avait une dizaine de bâtiments militaires différents. Nous, on a participé à plusieurs missions en lien avec cet exercice-là. Et donc du coup, qui nous a permis d'évoluer avec les différents bateaux, d'être en contact avec eux. On a également 2 V22 américains qui sont venus poser à bord du porte-hélicoptère, pendant que nous, on était en vol à ce moment-là autour du PHA, et de voir ces V22 qui sont des aéronefs assez mythiques quand même, parce que singuliers et vraiment exceptionnels et uniques. En fait, aucune autre armée les utilise à part eux, et son mode de vol qui est vraiment particulier. Ben de voir ça, de voir ça en étant en l'air, et de voir ces V22 qui tournaient autour du PHA, qui emportaient des passagers, etc. C'était des belles images.
Quand vous êtes ici sur le navire, vous êtes aux ordres de qui en fait? Du Pacha directement?
Oui, donc le Bacha a, lui, entre guillemets, autorité parce qu'encore une fois, il est aussi responsable de la sécurité du personnel et du bâtiment. Donc c'est lui qui a vraiment autorité sur toute personne à bord, notamment un plus gradé que lui, par exemple, avec une autorité qui viendrait à bord, un amiral, par exemple. Ben, en fait, c'est vraiment le capitaine du bateau pendant le civil ou le pacha, le commandant, qui lui, voilà, vraiment le... qui est vraiment le chef à bord. Et ensuite, nous, en fonction de... Nous, on a un chef de détachement, donc qui est le... entre guillemets, l'intermédiaire entre nous et le pacha. C'est celui qui va gérer tout le détachement en interne. Et c'est le principe pyramidal, entre guillemets, c'est d'avoir des chefs de service qui rapportent au chef encore au-dessus d'eux et qu'ensuite tout ça remonte, si nécessaire, jusque tout en haut. Et c'est à peu près pareil à bord. À bord, il y a des chefs de service, soit pour la partie énergie, machine, pour la partie équipage, RH, la partie ops. Voilà, tout le monde fait tête un petit peu sur son chef direct, il lui fait tête également. Enfin, c'est un principe qui existe dans le civil aussi.
Justement, le civil, parlons-en un petit peu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la suite, à votre deuxième partie de carrière? Est-ce que ce sera en tant que pilote, par exemple?
Oui, on y réfléchit, bien sûr. Néanmoins, le monde bouge vite. On a pu voir, par exemple, avec la crise du Covid, qu'il y a eu le monde du transport aérien a pris un gros coup. Et c'est vrai que, en fait, moi déjà, je suis engagé pendant 10 ans encore. C'est des contrats qui sont très souvent renouvelés, parce que la marine a besoin de pilotes, elle met du temps à les former. Donc disons que je ne suis pas du tout encore dans en fin de carrière ou dans le moment où je vais préparer ma reconversion, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre dans la marine et tout à faire. Néanmoins, oui, il y a une vie après la marine et donc du coup on verra les opportunités que j'aurai à ce moment-là. Mais tout ça, encore une fois, va dépendre de ce que je vais faire dans la marine, de ce que je vais apprendre, de ce que je vais acquérir comme compétences qui pourront du coup me servir pour plus tard. Mais on va dire je suis tourné sur le présent et sur, parce que ça sert à rien de voir trop loin non plus. C'est bien d'avoir une idée, mais voir trop loin, ça serait louper des choses qui m'attendent à plus court terme.
C'est vrai. Dans le podcast, on a reçu précédemment un mécanicien sur hélicoptère au sein du 4e RHFS et avec qui on abordait la question justement de la différence entre public-privé et du fait que dans le secteur privé, les grandes sociétés ont du mal à recruter, un peu moins peut-être que l'armée, parce que les conditions sont, en termes de salaire sont bien meilleures que celles proposées par l'institution. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous observez aussi au niveau de la marine? Est-ce que au niveau pilote, au niveau mécanicien, au niveau équipage, est-ce qu'il y a cette question qui se pose au niveau du salaire, des opportunités aussi de carrière? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez?
Oui, alors en fait, je me rends compte que souvent le civil peut être plus attrayant, comme vous dites, au niveau du salaire. Mais il y a des choses qu'on ne vit pas dans le civil, qu'on vit dans le monde militaire. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde commence par être militaire, acquérir des compétences, embarquer sur les bateaux, vivre plein d'expériences différentes, être sur des machines aussi qu'il n'y a pas forcément dans le civil, et faire des choses. C'est par exemple un sous-marinier, ce qu'il peut faire dans le monde militaire avec un sous-marin, même si plus tard il mettra au profit d'une entreprise privée ses compétences, il ne rembarquera pas 70 jours sous la mer, par exemple. Et pour nous, c'est pareil. Un pilote de chasse, par exemple, il est pilote de chasse dans la marine ou dans l'armée, il fait des choses exceptionnelles. Il apponte, il décolle d'un porte-avions. Même s'il devient pilote de ligne, par exemple, pour sa reconversion, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Donc, les armées ont quand même quelque chose d'un peu plus à offrir, je trouve, au niveau de l'épanouissement personnel. Mais aussi, c'est sûr que ça demande du temps, ça demande vraiment une implication personnelle. Et c'est vrai que, par exemple, pour une vie de famille, là, le monde militaire peut être un petit peu moins compatible que le monde civil. Du coup, c'est pas étonnant qu'à 35, 40 ans, voilà, en deuxième partie de carrière, quand on a peut-être un petit peu plus envie de se poser, fonder vraiment son foyer, bah, de basculer dans le secteur privé. Et je dirais que c'est le processus normal des choses.
Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect aussi patriotique dans tout ça? Est-ce que vous, quand vous embarquez, quand vous êtes en mission, vous pensez à ça?
Bien sûr. Bien sûr, il y a plein de traditions, plein de symbolismes qui sont là pour nous le rappeler, que ce soit par exemple une cérémonie des couleurs, que ce soit des moments, en fait, l'institution rend certains moments solennels. Et rien que quand on est tous réunis sur les rangs pour certaines occasions, ou quand on. Bah c'est vrai que quand on vole, par exemple, pour moi, quand on vole autour du porte-hélicoptère et qu'on voit cet énorme bateau, enfin, qui est une ville, en fait, quasiment, là, sur la mission, on a été quasiment 950 à un moment donné à bord. Quand on le voit évoluer comme ça au milieu de l'océan, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et qui représente les intérêts de la France. Et c'est vrai qu'avec les échanges, par exemple, qu'on a eus avec les autres marines, on a une certaine fierté. Une certaine fierté de montrer ce qu'on est capable de faire et de représenter. Quand on fait un échange avec des alliés, on représente du coup notre pays. Et ça, c'est un sentiment qui est assez fort. Oui.
Pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous aimeriez donner à un jeune qui a envie de s'engager dans la marine et plus particulièrement en tant que pilote hélico par exemple?
Bien déjà de laisser personne dire qu'il n'en est pas capable, de viser, de croire en lui, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de viser par exemple. Un jeune qui voudrait devenir commando marine ou pilote ou bien d'autres spécialités assez comment dire élitistes ou nageurs de combat etc. de vraiment tout donner et ensuite même dans le cas où il subirait des échecs, ce qui a été pour moi par exemple avec l'armée de l'air ou la latte au début, de pas baisser les bras et parce qu'il existe plein d'autres filières, plein d'autres spécialités différentes dans lequel il pourrait s'épanouir. Et la marine a quand même, enfin, la marine ou les armées en général ont quand même plein de choses à offrir. Et si vraiment ça passe pas, bon, c'est le destin et on se retrouve tous à un endroit. Et des fois on comprend plusieurs années après que ce pourquoi les choses sont passées comme telles. Mais vraiment voilà, donc il y a de belles choses à vivre. Et après c'est une vie aussi qui correspond pas forcément à tout le monde. Le fait d'être éloigné de chez soi pendant plusieurs mois, le fait d'être constamment ici, donc avec cette notion d'équipage, de vivre ensemble, vivre avec les autres, de dormir avec d'autres personnes, par exemple dans nos chambres qu'on connaît pas forcément en début de mission, etc. Ça demande vraiment une remise en question et une vie en collectivité. Voilà, mais il y a plein de belles choses à faire.
Il y a une question que j'ai oublié de vous poser qui est importante, c'est comment vous gérez le stress et peut-être aussi la peur, parce que mine de rien, décoller et atterrir sur un bateau au milieu de la mer qui peut être même agité, donc c'est pas le truc le plus simple au monde, je pense. Est-ce que déjà il y a des accidents ou est-ce qu'il y a eu des crashs sur des porte-hélicoptères par exemple, ça existe?
Alors pour la peur, je dirais qu'on n'a pas peur parce qu'en fait le moment où on a peur c'est que on est déjà dans une situation critique parce que la peur c'est vraiment un réflexe naturel qui intervient quand le cerveau se sent en danger. Décoller ou apponter, même si c'est pas quelque chose de forcément de facile, si ce sentiment de peur arrive de suite, c'est que on n'est pas forcément à notre place ou alors que les conditions sont vraiment pas bonnes du tout et qu'on n'a rien à faire là. Parce que le but, même si on a une mission à réaliser quand même, c'est de dans le l'exécution, on va dire, dans, là, de décoller, etc. C'est pas de suite d'aller au crash, parce que sinon, en fait, la mission n'est pas exécutée. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Le bateau perdrait le vecteur, etc. Donc, mais je dirais que pour pour réussir les missions qui sont plus ou moins complexes, en fait, on se raccroche aux procédures qui sont faites pour ça. Et moi, par exemple, un exemple, quand je suis rentré donc, pendant la sélection en vol, donc quand on rentre dans la promotion donc, à l'EIP50S, on a 14 vols sur Cap 10, sur Avant de Voltige. Et au bout de ces 14 vols, en fait, ça nous amène à faire des vrais programmes de voltige, à poser tout seul, etc., à faire des exercices de pas de moteur. Et chose qui serait pour moi quasiment impossible dans le civil en si peu de vols, du fait des procédures qui ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que pour moi, je n'avais pas le niveau de faire ça, de faire ce que je faisais en 14 vols, mais je le faisais parce que je suivais à la lettre, parce qu'on suivait à la lettre les procédures et les étapes de chaque figure, etc. Mais, et donc du coup, c'est pareil pour le décollage ici, donc d'un porte-hélicoptère de nuit. Donc en fait, sans horizon visible par exemple, on n'a aucune référence extérieure. Donc du coup, on fait notre décollage vraiment aux instruments. C'est un moment où dans la machine, personne ne parle. C'est un moment où on est tous super attentifs. Parce que pour revenir sur les crashs, souvent les crashs qui ont lieu en mer d'un hélico qui a été mis en œuvre depuis un bateau, c'est au décollage. Décollage parce que sans référence extérieure, un petit peu comme du vol dans les nuages, aux instruments, on peut vite avoir des illusions sensorielles et donc du coup qui nous amène du coup à nous imaginer dans une certaine position alors qu'on ne l'est pas et donc du coup amener l'hélicoptère à sortir l'hélicoptère d'une bonne un bon domaine de vol et ces illusions sensorielles sont assez dures à contrecarrer et c'est d'ailleurs pour ça que pendant notre formation on passe par Mont-de-Marsan donc là-bas il y a vraiment un centre d'expertise là-dessus et on expérimente dans plein de situations différentes, vraiment à quel point notre oreille interne peut être trompée. Et c'est quand même assez bluffant parfois. Et donc du coup, alors, en en ayant conscience, maintenant, ça nous arrive à tous hein, d'avoir de nuit des petites illusions sensorielles, de se croire en virage, de se croire en descente, etc. Mais vraiment, dès qu'on a ces sensations-là, on revient sur nos instruments et on leur fait confiance parce que c'est eux qui... C'est eux qui ont raison. Et y a des pilotes de chasse aussi qui sont crashés du fait des illusions sensorielles. C'est vraiment quelque chose contre lequel on lutte, surtout quand on n'a pas de référent, donc de nuit et dans les nuages. Mais voilà, c'est vraiment le facteur accidentogène.
Donc faire confiance aux instruments et à sa formation, quoi.
Oui, tout à fait.
Eh ben, merci pour cet échange.
C'était un plaisir.
Et bonne fin de mission sur ce porte-hélicoptère.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres et à parler de ce podcast autour de vous. Pour info, nous avons consacré le dossier du dernier numéro de notre magazine papier, le numéro 8, à la mission Jeanne d'Arc, et vous y retrouverez notamment des photos exclusives de la mission réalisées sur place. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.